Chapitre 6. Tu te cherches un paradis ? Avisa le très plat, qu'Ankèse lui eut expliqué la situation. Essaye voir Copenhague, les abords de la section universitaire. La voix récita des coordonnées qu'il entra à mesure au clavier. Ils se trouvèrent leur paradis, un paradis de pirates, à la frontière encombrée d'une grille universitaire à sécurité allégée. Au premier regard, ça ressemblait aux espèces de graffitis que les pupitreurs étudiants laissaient parfois à la jonction de réseaux, pâles glyphes de lumière colorée qui chatoyaient devant les contours flous d'une douzaine d'écoles des beaux-arts. « Là !» dit le tréplat. « Le bleu vu, c'est le code d'entrée pour la belle Europe. Et tout neuf encore. La belle va pas tarder à repasser et relire tout le putain de tableau, en changeant tous les codes qu'ils trouveront repiqués. Et dès demain, les gamins auront craqué les nouveaux. » Caisse se faufila dans le réseau de la belle Europe et bascula sur un code téléphonique standard. Avec l'aide du tréplat, il se connecta sur une base de données londonienne que Molly prétendait être celle d'Armitage. « Là, dit la voix, je vais le faire pour toi. » Le tréplat se mit à psalmodier une série de chiffres que Caisse introduisit dans sa console en tâchant de ne pas manquer les pauses que marquait le construct pour indiquer la chronologie. Il fallut trois essais. « Le gros truc, dit Tréplat, pas du tout de glace. « Sonde-moi ce bordel, dit Caisse à son Osaka, cherche la bio personnelle du propriétaire. » Les graffitis neuroélectroniques du paradis s'évanouirent, remplacés par un simple losange de lumière blanche. Le contenu est essentiellement formé d'enregistrements vidéo de procès militaires d'après-guerre, dit la voix distante de l'Osaka. Le personnage central est le colonel Willis Corto. Montre toujours, fit Caisse. Un visage d'homme envahit l'écran. Les yeux étaient ceux d'Armitage. Deux heures plus tard, Caisse se laissa tomber sur la dalle auprès de Molly et laissa la mousse expansée se mouler contre lui. Trouver quelque chose, demanda-t-elle, la voix embrumée par le sommeil et la drogue. « Te raconterai plus tard, fit-il. Je suis rompu. » Il avait mal aux cheveux. Il se sentait embrouillé. Il resta allongé, les yeux clos, en cherchant à faire le tri entre les différents éléments de l'histoire d'un homme appelé Corto. Le Osaka avait trié une mince sélection de données et concocté un topo, mais il était plein de lacunes. Une partie du matériel était composée d'archives imprimées qui défilaient en silence sur l'écran, trop vite. Si bien que Caisse avait dû demander à l'ordinateur de les lui lire. D'autres sections étaient formées d'enregistrements audio des auditions de l'affaire de Point Hurlant. Willis Corto, colonel, avait plongé au travers d'une tache aveugle dans les défenses russes au-dessus de Kirensk. Les navettes avaient créé le trou à l'aide de bombes à impulsion et l'équipe de Corto était descendue avec ses micros légers Nightwing, voilure tendue qui claque au clair de lune, reflets d'argent le long des fleuves Angara et Podamenaya, dernière lumière que Corto devait voir de 15 mois. Caisse essaya de s'imaginer les micros légers s'épanouissant hors de leur capsule de largage, loin au-dessus de la steppe gelée. Sûr qu'ils t'ont bien empaffé, chef, dit Caisse, et Molly se mit à gigoter à côté de lui. Les micros légers n'avaient pas été armés. On les avait déshabillés pour compenser le surpoids occasionné par un pupitreur, sa console prototype et son programme viral baptisé Taupe 9, le premier virus véritable de l'histoire de la cybernétique. Corto et ses hommes avaient été entraînés à la passe durant 3 ans. Ils avaient craqué la glace et s'apprêtaient à injecter la Taupe 9 lorsque les EMS détonnèrent. Les canons à impulsion soviétique plongèrent les membres du commando dans les ténèbres électroniques. Les circuits de vol des Nightwing tombèrent en rideau, nettoyés d'un seul coup. Puis ce fut au tour des lasers, visant dans l'infrarouge pour choper sans peine les fragiles appareils d'assaut transparents au radar. Et bientôt, Corto et son pupitreur mort dégringolaient du ciel de Sibérie, dégringolaient et dégringolaient. À cet endroit, il y avait des trous dans le récit. Lorsque Kayes voulut balayer les documents concernant le vol de l'hélico porte-canon russe réquisitionné qui était parvenu à gagner la Finlande, pour au bout du compte se faire éventrer à son atterrissage dans une plantation d'épicéas par un antique canon de 20 mm servi par un cadre de réservistes en alerte matinale. Pour Cortot, l'opération Point Hurlant s'était achevée dans les faubourgs d'Helsinki, avec des secouristes finlandais venu l'arracher à la scie des entrailles tordues de l'appareil. La guerre s'acheva 9 jours plus tard, et Cortot fut expédié dans une installation de l'Utah, aveugle, amputé des 2 jambes et d'une bonne partie de la mâchoire. La commission d'enquête mit 11 mois pour l'y retrouver. En attendant, il écoutait suinter le goutte à goutte. À Washington et McLean, les procès organisés pour la façade étaient déjà en cours. Le Pentagone et la CIA étaient en train de se faire balkaniser, démantelés en partie, tandis qu'une commission du Congrès se focalisait sur Point Hurlant. « Mur pour être Watergate », avait dit à Cortot le délégué. Il avait d'abord besoin d'yeux, de jambes et d'un sérieux travail de chirurgie réparatrice, avait souligné le délégué. Mais ça pourrait s'arranger. « Changer la plomberie », avait ajouté l'homme, en pressant l'épaule de Cortot sous la chemise trempée de sueur. Cortot entendait toujours le bruit implacable et doux du goutte à goutte. Il dit qu'il préférait témoigner dans l'état où il se trouvait. « Non, dit le délégué, les procès étaient télévisés. Il fallait atteindre les lecteurs. » Le délégué toussa poliment. Réparé, regarni et copieusement préparé, Cortot fournit en conséquence un témoignage fort détaillé, émouvant, lucide et amplement inventé par une cabale de parlementaires investis de la mission de préserver certains pans particuliers de l'infrastructure du Pentagone. Cortot comprit peu à peu que le témoignage qu'il fournissait contribuait en fait à sauver la mise à 3 officiers directement responsables de l'escamotage des rapports sur l'édification des installations de défense par impulsion électromagnétique de Kirensk. Son rôle au procès achevé, il était devenu indésirable à Washington. Dans un restaurant de Mac Street, après des crêpes aux asperges, l'assistant lui expliqua les dangers mortels qu'il courait à parler aux gens à qui il ne fallait pas. Cortot écrasa le larynx de l'homme des doigts crochés de sa main droite. Le délégué du Congrès s'étrangla, piqua du nez dans sa crêpe aux asperges et Cortot sortit dans l'air froid de septembre. Le Osaka continua de balayer rapports de police, rapports d'espionnage industriel, nouveaux fichiers. Kayes suivit Cortot, partit travailler avec des transfuges des compagnies, à Lisbonne, puis à Marrakech, où il paraissait de plus en plus obsédé par l'idée de la trahison, apprenant à mépriser les scientifiques et les techniciens qu'il achetait pour le compte de ses employeurs. Ivre, à Singapour, il battit à mort un ingénieur russe dans un hôtel avant de mettre le feu à sa chambre. Ensuite, il refaisait surface en Thaïlande, contremaître dans une fabrique d'héroïne, puis comme homme de main pour un cercle de jeu en Californie, avant de réapparaître en tueur à gages dans les ruines de Bonn. Il braquait une banque à Wichita. Ensuite, le rapport devenait vague, plein de zones d'ombre, les lacunes de plus en plus vastes. Un jour, disait-il, au cours d'un segment enregistré qui suggérait un interrogatoire chimique, tout était devenu gris. Une traduction de rapports médicaux en français expliquait qu'un homme dépourvu d'identité avait été hospitalisé dans un service psychiatrique à Paris où l'on avait diagnostiqué une schizophrénie. Devenu catatonique, il avait été interné dans une institution d'État dans la banlieue de Toulon. Il servit alors de cobaye d'un programme expérimental destiné à renverser le processus schizophrénique par l'application de modèles cybernétiques. On fournissait des micro-ordinateurs à un échantillon aléatoire de patients qui étaient encouragés, avec l'aide d'étudiants, à les programmer. Ils devaient guérir, seul et unique succès de toute l'expérience. Le rapport s'achevait ici. Marquise se retourna sur la mousse et Molly le maudit à voix basse de l'avoir dérangé. Le téléphone sonna. Il le tira vers le lit. « Ouais ? On part pour Istanbul, » dit Armitage, « ce soir. »« Qu'est-ce qu'il veut encore, l'autre salaud ?» demanda Molly. « Dis qu'on part pour Istanbul ce soir. » »« C'est tout bonnement merveilleux. » Armitage débitait numéro de vol et heure de départ. Molly s'assit sur le lit et alluma. « Et mon matos ?» demanda Case. « Ma console ?»« Le Finnois s'en occupe, » dit Armitage, et il raccrocha. Case la regarda faire les bagages. Elle avait des cernes sombres sous les yeux, mais même avec son plâtre, c'était comme de regarder un balai. Pas un geste inutile, alors que ses vêtements à lui s'entassaient en piles chiffonnées à côté de son sac. « T'as mal ?» demanda-t-il. « Je passerai volontiers encore une soirée chez Menton. »« Ton dentiste ?»« Je veux. Super discret. La moitié de son rack est transformée en clinique. Il remet en état des samouraïs. » Elle zippait son sac. « Déjà allé à Istanbul ?»« 2 jours, une fois. »« Rien n'a changé, » dit-elle. « Toujours le même sale vieux trou. » C'était déjà pareil quand on est parti pour Chiba, dit Molly, contemplant par la vitre du train le paysage lunaire de zones industrielles ravagées, avec à l'horizon les balises rouges pour prévenir le survol aérien d'une centrale à fusion. On était à Los Angeles. Il s'est pointé en disant « Ramballe » et on était en route pour Macao. Une fois là-bas, j'ai joué l'entraîneuse au Lisboa, tandis qu'il traversait la baie pour se rendre à Zongan. Le lendemain, je jouais les fantômes avec toi dans la cité de la nuit. Elle sortit un mouchoir de batiste de la manche de son blouson noir et polit ses incrustations. Le paysage du nord de la Conurbe éveillait dans la mémoire de Case des souvenirs d'enfance confus. Touffes d'herbes mortes dans les fissures des plaques de béton d'une chaussée d'autoroute. Le train se mit à décélérer à 10 kilomètres de l'aéroport. Case regarda le soleil se lever sur le paysage de son enfance, sur les terrils abandonnés et les coques rouillées des raffineries.